L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. Les 100 ans de la radio en France, les 40 ans des radios libres. Nous les fêtons toute la semaine dans la première partie de L'EM. La radio, donc, ce sont des micros, des ondes, des musiques, mais ce sont surtout des gens et des voix. Et donc on vous fait rencontrer cette semaine quelques-unes de ces voix qui font ou qui ont fait la radio dans le Finistère. Place aux voix féminines aujourd'hui et demain. Nous recevons donc Danielle Belbari qui a d'abord mis les pieds dans la marmite de la radio qu'on disait pirate. Elle a connu aussi la très officielle France Bleu où elle officiait jusqu'en 2017. Et aujourd'hui encore, elle est présente à un magazine culturel sur une radio associative, Neptune, dont on vous a parlé mardi. Bonjour Danielle.
Bonjour Véronique, merci de m'avoir invitée.
Oh bah c'est un plaisir, vraiment. Et moi j'adore recevoir des passionnés, je sais que tu en es une. Comment est-ce que la radio est entrée dans ta vie? Comment est-ce que tu es tombée dedans en fait? Raconte-nous.
Un petit peu par hasard, j'étais à l'époque, donc on resitue la période,
oui.
Avril 81, j'avais été contactée en mars pour animer une émission sur une radio pirate qui allait avoir lieu pendant une semaine à Brest, Radio Brest Atlantique, du 8 au 13 avril, et j'avais été contactée en tant que féministe, puisqu'à l'époque j'étais dans les groupes femmes, et je travaillais à la mairie de Brest au cabinet pour réaliser le journal municipal de la mairie de Brest. Voilà. Et donc j'ai été contactée à ce titre-là. Ça m'a intéressée. J'en ai parlé aux copines du groupe femmes qui m'ont dit « Ouais, vas-y, nous on ne veut pas y aller, mais toi, vas-y. » On a préparé nos émissions ensemble. Elles ont participé à la préparation des émissions qui avaient un ton extrêmement différent de ce qu'on pouvait entendre sur les radios dites officielles, hein, puisque le paysage radiophonique de l'époque n'est pas celui
d'aujourd'hui. Oui, il n'y avait que des radios officielles, en fait, quasiment. Et puis, ces radios pirates qui surgissaient de ci, de là, mais avec des bénévoles, des gens qui, finalement, n'avaient jamais fait de radio, je suppose.
Absolument. On était tous béotiens. Alors, moi, j'avais déjà une formation de journaliste. J'avais touché un petit peu à la radio dans ma formation, mais très peu. Et surtout, j'en avais jamais fait après. Ouais. Donc, voilà, on s'est lancé dans une aventure qui devait durer une semaine et puis en fait on a continué après quoi.
Donc c'était une radio qu'on peut qualifier de politique en fait, c'est ça?
Ah, c'était un coup politique véritablement lancé par le mouvement des jeunes socialistes, donc le MJS à l'époque, pour accueillir François Mitterrand qui venait faire un de ses derniers meetings avant le premier tour des présidentielles. Il voulait monter ce coup politique. Les studios étaient installés dans un des salons de la mairie de Brest.
Quand même. Donc avec la caution de la mairie, quand même.
Absolument. Avec la caution de la mairie. Et tout un tas de gens ont participé, en fait, à cette première ébauche de radio pendant une semaine.
Et qui avait eu l'idée de faire une radio? Enfin, c'est parce que c'était dans le programme de François Mitterrand ou
Oui, il y avait ça, bien sûr, puisqu'on savait que François Mitterrand, s'il était élu, il y avait de fortes chances. Ce n'était pas du tout gagné. Hein. On n'était pas sûr à 100%, mais il y avait quand même des chances qu'il libère le monopole, hein, de l'audiovisuel. Et oui, ce sont des jeunes étudiants socialistes qui ont eu cette idée-là, sans doute pilotés aussi par des politiques un peu plus aguerris, certainement. Mais là, je n'étais pas dans le secret de la fabrication de la radio. En tout cas, c'était une histoire qui a duré une semaine et qui a montré tout de suite que cette radio répondait à un véritable besoin.
Ah oui, comment ça s'est vu?
Ah, déjà par les coups de téléphone.
Ah ouais.
C'était incroyable. Les gens qui passaient au studio, les jeunes qui venaient nous voir. Et d'ailleurs, la radio s'est fabriquée au fur et à mesure des jours avec des jeunes qui venaient parler dans le poste, parce qu'on avait des grandes plages comme ça qui étaient ouvertes à tous et à toutes. Et on a vraiment senti cette nécessité, en fait, de la parole qui se libérait.
Ouais, d'expression, en fait, ouais. C'était ça. Et ça émettait sur quelle zone, en gros, RBA
Je ne sais pas, au début, on devait arroser le pays de Brest très largement, j'imagine.
Ah ouais, quand même. Ça allait loin.
Oui, l'émetteur était costaud. L'émetteur venait d'Italie, hein, parce que tout ça était illégal. Hein.
Bien sûr, c'est ça qui est amusant.
Oui, enfin oui, on peut dire ça comme ça.
Oui, enfin, ça s'est pas très bien terminé sur le coup, c'est ça.
Ça n'a pas très bien commencé, ça.
Oui, enfin, je veux dire plutôt, oui, voilà.
Oui, oui, c'était assez drôle.
C'est-à-dire que quoi, la police est arrivée, c'est ça?
Oui, oui, la police est arrivée, donc on a pris l'antenne à 7h du matin, et à 9h, la police arrivait dans les studios. Donc moi, j'avais démarré mon émission depuis un quart d'heure. Donc c'est bien, tu vois, au bout d'un
et
quart d'heure.
Et c'était quoi comme émission?
C'était une émission féministe qui s'appelait « Mais qu'est-ce qu'elles veulent ?» Et je lançais un reportage, alors je ne sais plus si c'était, je crois que c'était sur l'avortement quand ils sont arrivés.
Ouais, sujet encore brûlant.
Voilà, c'était des sujets, on avait une émission sur le viol, on parlait de choses dont on parlait peu à la radio et surtout avec les personnes concernées.
Mais oui, c'est ça. Qui, elle, n'avait jamais eu la parole avant, peut-être.
Absolument.
Ou marginalement, oui. Mm. Et donc là, vous vous faites virer par la police. Enfin, c'est ça, vite fait, quoi.
Oui, mais ils ne réussissent pas à récupérer l'émetteur.
C'est ça. Tout est là.
Et donc, nous réémettons le lendemain, après-midi, pour l'arrivée de François Mitterrand à la mairie de Brest.
D'accord. Et après, comment est-ce qu'elle a réussi à se perpétuer un peu, cette radio, à perdurer un peu
Je pense que dans l'équipe, nous étions un certain nombre à penser qu'il fallait continuer. Pas tout le monde, hein, mais une partie. Et on s'est vite retrouvés après cette première semaine en disant on va continuer. Si François Mitterrand est élu, on continue. S'il n'est pas élu, on arrête, parce qu'on voulait vraiment créer une radio libre, locale, ancrée dans le territoire. Et le 10 mai au soir, on a réémis. Avec une émission spéciale pour l'élection. On a d'ailleurs eu un duplex avec Plogoff qui était absolument...
Wow.
Radio Plogoff qui, était, bah oui. qui reste dans les mémoires.
Il y avait encore la centrale, la mobilisation sur la centrale, c'était quoi, quelques années avant, c'est ça
Oui, il avait commencé quelques années avant et on savait là aussi que si François Mitterrand était élu, le projet de centrale nucléaire à Plogoff serait abandonné. Donc il y a eu un immense cri génial de soulagement, de joie qu'on a pu vivre aussi sur l'antenne de Radio Brest Atlantique. Et donc après, le 10 mai au soir, on est là et le 11 mai au matin, on a la matinale et on commence les émissions.
Un peu plus structuré, alors, c'est
oui,
ça
oui, on s'est structuré au fur et à mesure.
Oui, c'est ça, j'imagine.
Avec au début, on émettait le matin, le midi, le soir. Et puis petit à petit, la grille s'est enrichie de tous les gens qui sont venus nous voir. C'est ça qui était génial, en fait.
Oui, c'était ouvert, en gros. Enfin non, il y avait quand même une couleur politique, j'imagine. Que peut-être tout le monde n'osait pas venir
Ouais. Que tout le monde n'osait pas venir nous voir. Encore qu'on a eu aussi des gens qui n'étaient pas à gauche, qui sont venus faire des émissions. Mais... il faut dire aussi que très vite, la bande FM, elle se remplit. Hein.
Ben oui.
Au début, on est tout seul, mais très rapidement, on n'est plus tout seul sur la bande FM. Donc, il y a des espaces pour les gens pour venir s'exprimer. Mais moi, ce dont je me souviens, c'est cette émulation collective, cette envie de faire les choses, cet enthousiasme incroyable, ce côté foutraque aussi, il faut bien dire.
Il n'y avait pas de salariés, enfin il n'y avait que des bénévoles finalement.
Alors pendant très longtemps, il n'y a eu que des bénévoles. Pendant les 18 premiers mois, il n'y a eu que des bénévoles. Puis après, nous avons obtenu une subvention assez conséquente de la mairie de Brest et nous avons pu salarier un certain nombre de personnes. Dont j'étais d'ailleurs, puisque moi j'avais donné ma démission quand même de la mairie de Brest. Je n'étais pas la seule à avoir quitté mon job pour ne faire que de la radio.
Et ouais.
Donc voilà, c'était assez sportif quand même.
Là, ça montre déjà la passion, que quand on a le virus, on prend tous les risques.
Mais on en parlait juste avant, je pense que la radio, c'est assez addictif en fait.
C'est ça. Je confirme.
Mmh. Tu confirmes, ouais. Voilà. On plonge dedans et alors après, on va dans les grandes profondeurs, on va presque dans les abysses. Et c'est un grand bonheur, en fait, de faire de la radio.
Oui, c'est une bonne addiction, hein, quand même. Il faut rassurer ceux qui n'y ont pas goûté. C'est... on n'en meurt même pas, normalement.
Non, tout va bien.
Et donc, comment est-ce que ça s'est... Alors oui, si, quand même, j'avais une question. Donc, puisque là, c'était une émission féministe, que tu as continué à animer une émission féministe, donc c'est ça, enfin, pour les femmes ou par
alors,
les femmes ?
Plutôt pour et par les femmes. Je me suis plutôt occupée de la coordination des émissions, puis de la rédaction. Enfin, donc, je ne pouvais pas forcément tout faire. Mais on avait monté une émission qui était vraiment très, très sympa avec des animatrices de Maisons pour tous. Et à partir des besoins des femmes qu'elles rencontraient dans les Maisons pour tous. Donc ça, c'était vraiment très bien parce qu'il y avait à la fois de la consommation, on travaillait aussi avec les associations de consommateurs et ça permettait d'aborder plein de sujets, en fait, de la vie quotidienne de nous.
C'était nouveau, peut-être aussi, ça aussi, sur les radios.
Oui, ça, c'était vraiment... En tout cas, la façon de faire était nouvelle. On allait aussi rencontrer les femmes dans les maisons pour tous, aussi. Le soir, on faisait des débats. Ça a été vraiment un moment très, très sympa de radio, qui a duré quelques mois, parce que c'était assez prenant pour les animatrices. Donc, au bout d'un moment, elles ont arrêté. Mais on a toujours trouvé des espaces pour exprimer cette sensibilité, là aussi, féministe, oui.
Et donc, il y avait cette émission. Mais est-ce que par ailleurs, enfin, moi, j'ai l'impression quand même que la radio est longtemps restée un milieu très masculin. Est-ce que par ailleurs, il y avait des femmes à RBA ?
Il y avait des femmes. Il y avait mon alter ego, Fabienne, qui a fait carrière depuis. Et elle était, elle, lycéenne. Et elle a abandonné le lycée pour faire de la radio.
Ah ouais, encore une.
Voilà, encore une qui est tombée dans la marmite. Non, il y avait pas mal de femmes. Il y avait aussi des femmes qui étaient mères de famille, qui sont venues comme ça, pousser la porte et qui animaient ou aidaient ou participaient. C'était très majoritairement masculin quand même. Faut
oui,
pas
c'est
exagérer
ça, ouais.
Non plus. Hein, mais il y avait des femmes, oui, il y avait quelques femmes en tout cas. Puis des femmes qui avaient du répondant, qui avaient envie de parler de plein de sujets... C'était ça aussi, cette période, c'est qu'on avait envie de parler d'énormément de choses et des sujets qui n'étaient pas forcément dans la presse quotidienne.
Pas dans l'air du temps officiel, quoi.
Voilà, ouais, vraiment. On parlait déjà d'écologie, par exemple.
Ah, mais oui.
On en a fait quand même pas mal, les sujets. Et à l'époque, c'était pas un sujet mainstream, comme on dit.
Non, c'est ça, parce que maintenant, voilà. C'est vrai que ça l'est devenu.
Oui,
faut reconnaître. Ouais. Et quand est-ce que ça s'est arrêté, alors, RBA, l'aventure RBA ?
Alors, l'aventure s'est arrêtée en août, la dernière émission, c'est août 1983, le nouveau maire de Brest, Jacques Berthelot, nous coupe les vivres dès son élection. Donc on se retrouve comme au début, et là, l'épuisement, la fatigue font qu'on n'a pas forcément envie de revivre les mois qu'on a vécu avant. Et on se résout à arrêter la radio en août 83, après avoir licencié le personnel.
Et toi, tu avais commencé la radio, donc ça y est, tu avais vraiment un bagage, une expérience. Enfin, en fait, tu peux dire que tu dois à RBA ta formation radio. Enfin,
absolument,
voilà.
Oui, tout à fait, j'ai appris sur le tas.
Et donc, tu as trouvé facilement après
Pas tant que ça, imagine-toi.
Oh.
D'abord parce que le traumatisme a été important de cette radio, parce qu'on l'avait créée quand même.
Ouais,
donc c'était
sûr.
Quelque chose d'assez douloureux. Et puis, j'étais un peu blacklistée quand même, on va dire. Hein. Mais oui, oui,
ouais,
oui.
Ouais.
Oui.
Yes.
Tu étais un peu une étiquette sur le front, donc je crois que j'ai laissé un peu tomber la radio pendant quelques temps, en me disant non, ça ne va pas le faire. Et puis j'y suis retournée en 90, là encore par hasard. Et là, Radio France, donc c'était autre chose.
Donc c'était France Bleu, ça s'appelait, à l'époque ça s'appelait encore RBO, c'est ça
Oui, Radio...
Radio Arbo.
Radio Bretagne Ouest, ce qui était drôle d'ailleurs,
oui.
Parce que nous, on avait invité René Abjan, le premier directeur, enfin nous, quand je dis nous, c'est RBA, Radio Brest Atlantique. Nous avions invité René Abjan, premier directeur de RBO, au moment de la création de RBO. Donc c'était assez drôle de se retrouver de l'autre côté, de trouver en fait aussi une façon de faire la radio, moi qui m'a beaucoup plu en fait,
oui.
à Radio Bretagne Ouest.
Ouais, qu'est-ce que tu as aimé justement? Comment tu peux comparer les deux façons de faire la radio?
Côté matériel, côté conditions de travail, ça n'a évidemment rien à voir. Hein. Il y a le côté professionnel. Il faut là aussi apprendre des choses que je ne savais pas faire. Donc, je m'y suis mise.
Tu as été recrutée comme journaliste ou comme animatrice?
Comme animatrice, ah ouais. Reporter.
D'accord. Donc, il y avait quand même du reportage à faire.
Voilà. Ouais. C'était un peu ma carte de visite. C'était ça qui a fait que j'ai pu rentrer. C'est que je savais faire des reportages et des interviews. Donc, ça m'a ouvert les portes de Radio Bretagne Ouest, RBO. Et puis, j'ai retrouvé une liberté de ton, en fait. Une liberté de choix de sujet. Moi, j'étais reporter en résidence, on appelait ça comme
ouais,
ça.
RER. Bon.
Alors, pas RER journaliste, mais RER animatrice,
c'est ça, voilà.
À Brest. C'est un terrain que je connaissais quand même plutôt bien. Et donc, j'ai pu vraiment faire des sujets. J'avais aucune censure, rien du tout. Enfin, c'était vraiment...
Ça dépendait peut-être du directeur local aussi, ça, non ?
Oui, oui, je pense qu'on avait une liberté de ton qui restait très longtemps quand même.
Mm-hmm. Oui. Ah oui, parce que ça s'est gâté à un moment. Ouais. Il y a eu des directives, peut-être
oui,
plus marketing que politique.
Disons que voilà, c'est peut-être pas très politiquement correct de dire ça sur cette antenne, mais à partir du moment où le réseau France Bleu s'est constitué, on a eu beaucoup plus d'impératifs à respecter et là. Le degré, même si c'est resté quand même très longtemps avec une grande latitude, en fait, on a senti quand même que ça se rétrécissait au fur et à mesure des années.
Oui, c'est plus formaté parce qu'il y a une cible, enfin c'est ça aussi.
Voilà, exactement, c'est plus marketé, enfin il y a le marketing arrive, on s'adresse à tel public, donc tel type de sujet. Bon. Après, on réussit toujours à faire les choses. Hein. Oui. Il faut argumenter. On réussit à faire les choses. Mais disons que c'est un peu plus compliqué. Oui.
Mm-hmm. Et quand tu as été à France Bleu, enfin RBO, tu avais aussi la partie, je ne sais pas, contact direct avec les auditeurs, parfois qui appellent. Enfin, il y a ce genre d'émission aussi.
Oui, alors moi, j'avais moins ça puisque j'étais à Brest et qu'à Brest, c'est vraiment un bureau de reportage. Et donc, j'étais en direct à l'antenne quand je présentais mes reportages ou quand je faisais mes interviews, mais j'avais moins le contact avec les auditeurs. Par contre, j'ai pu faire des remplacements à Quimper et effectivement, ce contact direct avec les auditeurs, c'est quand même assez magique hein,
ouais.
D'avoir les auditeurs au téléphone, de jouer avec eux, qu'ils interviennent dans des émissions où ils peuvent poser leurs propres questions. L'interactivité en radio, c'est très, très important.
Même si ce n'est pas toujours facile, comme je disais, sur les radios associatives, souvent on n'a pas les moyens de vraiment faire ça.
C'est
vrai que
ouais. C'est plus compliqué. Mais non, c'est un point important, c'est un pan important de la radio parce qu'on est sans doute le seul média qui permet ça en fait. Cette interactivité comme ça, directe. La télévision, c'est beaucoup plus compliqué. La presse écrite, n'en parlons pas. Donc en radio, on a ce côté immédiat. On voyait bien d'ailleurs, on le voit sur toutes les radios, quand il y a un événement, quand il y a de la neige, quand il y a des accidents, quand il y a des tempêtes, ce sont les auditeurs qui nous amènent les informations.
C'est vrai. Mais maintenant, il y a Facebook et tout.
Ah oui, tous les réseaux.
C'est-à-dire, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on dit que la radio est un média chaud. Alors, donc en fait, ça nous amène un peu... Alors, oui, si, juste une parenthèse aussi, tu avais pris des responsabilités syndicales quand tu étais à France Bleu, ça c'était la continuité de ton militantisme, c'est ça je suppose?
Oui, bah oui, on ne change pas, hein. on ne se refait pas, non, c'est comme ça. Non, j'ai toujours été assez engagée sur le plan associatif, pas forcément sur le plan politique d'un parti politique, mais oui, avec une envie de... Bah, de défendre aussi les salariés, oui. Mmh. C'était une chose importante.
Et est-ce que tu, pendant toute ta carrière à France Bleu, tu continuais à garder des contacts de près ou de loin avec des radios associatives, au moins de Brest ou d'alentour ?
Oui, parce qu'on a des amis, évidemment. Hein. Donc, moi, j'étais très contente, par exemple, de voir que Radio Neptune continuait. J'étais très contente de voir que Radio Quartier de Kerango est devenue Fréquence Mutine. Et j'avais des amis à Fréquence Mutine, donc, enfin surtout un ami. Donc oui, des contacts avec ces radios-là, c'était important, oui. Enfin, avec Neptune un peu moins, pendant... c'est venu quand je suis... devenue retraitée.
Voilà. Et donc maintenant, en fait, à nouveau, justement, tu fais de la radio à nouveau, donc, chez Neptune.
Oui, oui. J'ai longuement hésité, en fait, parce que je m'étais dit qu'il fallait arrêter cette addiction.
Se sevrer.
Se sevrer. Donc, j'ai réussi pendant quelques temps à me sevrer. Et puis, non, l'appel de la radio était un peu fort, très fort. Et puis, les circonstances aussi. C'est vrai que le décès de Jean Le Corvoisier, j'ai rencontré Jean-Louis, son fils, qui avait envie de redynamiser, de recréer des émissions. Et voilà, on s'est mis assez vite d'accord sur le fait de refaire une émission de radio à un rythme de retraité, je le précise.
Tous les 15 jours, c'est... écoute, c'est pas mal quand même.
Oui, oui, pour une émission d'une heure. Les... Ouais. Tous les 15 jours, avec un format qui nous plaît bien dans la façon de faire les choses aussi.
Un magazine culturel, c'est ça, enfin, avec,
Oui, c'est un magazine culturel, alors un peu comme... on n'a pas copié, hein, je te jure. Mais on a une première partie avec un invité, en direct, en studio. Et puis ensuite, nous avons une autre partie consacrée à des chroniqueurs qui viennent avec leur passion. Et ça, c'est vraiment magique.
Ouais, de contaminer d'autres gens, c'est bien aussi.
Oui, oui. Ouais. Ouais, de contaminer au virus de la radio. Et ce sont des gens très pointus, des personnes très pointues sur leur sujet. Donc, ce qu'ils racontent est passionnant, en fait.
C'est ça. Et alors, malgré ce virus extrêmement virulent de radio, tu me disais hors antenne que voilà, tu étais quand même inquiète pour l'avenir de la radio. Donc, pourquoi, en fait ? Enfin, des radios. Enfin, c'est vrai que la radio, c'est vaste. Hein, en
fait. Oui, la radio, c'est vaste. Bah, d'abord parce que les chiffres sont pas... Enfin, la radio reste un média très, très écouté. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Je crois que c'est 3 Français sur 4 qui écoutent la radio quotidiennement. Donc, c'est quand même pas mal. Par contre, ça diminue d'année en année, quand même. Hein. Et ça diminue de façon importante chez les jeunes. Donc, voilà, on sait bien pourquoi. C'est parce qu'on n'écoute plus la radio de la même façon aujourd'hui. On l'écoute plutôt sur les réseaux, on écoute aussi beaucoup de podcasts, on écoute des web radios. Et puis peut-être que les radios traditionnelles ont peut-être encore un nouveau virage à prendre, j'en sais rien. Moi, je suis pas.
Je pense que c'est vrai pour les radios musicales, typiquement, c'est vrai, puisque maintenant elles sont complètement concurrencées par les programmes, les plateformes qui permettent d'avoir son programme.
De faire
adapté.
Son programme à la carte,
ouais,
hein,
mais pour les autres radios, je ne sais pas en fait. Ouais, c'est vrai, les radios parlées comme les nôtres ou.
Je ne sais pas, mais je pense qu'il. En tout cas, je suis un petit peu inquiète parce qu'il y a aussi la... Alors, je suis nulle en technique, donc je vais peut-être dire des bêtises, tant pis. Mais la radio numérique terrestre, moi, m'inquiète beaucoup, véritablement. Parce que le poste de radio avec des piles, c'est quand même quelque chose qu'on doit avoir chez soi. S'il y a le moindre problème, c'est là-dessus qu'on va pouvoir, c'est sur ce média-là, qu'on va pouvoir continuer à avoir des informations. Quelle que soit la situation.
Pour des raisons de sécurité, donc. Ouais. Enfin,
absolument.
S'il y a un accident, surtout quand on n'habite pas loin de l'île longue.
Oui, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, même s'il n'y a pas forcément des risques importants. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et je pense que c'est plus facile à couper, hein, radio numérique terrestre, si on a besoin de couper. On a fait une émission sur Radio Neptune, sur les 40 ans des radios libres, et nous avions invité Marie Floussoirne, qui était à Radio Plogoff. Mais qui était et qui est élu aussi à la mairie de Brest et qui est écologie les Verts. Hein. Et elle nous disait très justement, ça m'a un peu surpris quand elle l'a dit ça, mais je me suis dit tu n'as pas tort. Elle nous disait que sans doute que ce qu'on avait vécu il y a 40 ans, il fallait peut-être penser à le refaire dans les mois ou les années à venir. C'est-à-dire d'être vigilant aussi. Sur les questions de liberté de ton, de liberté de parole.
Alors, on pourrait dire que cette liberté existe quelque part sur les web radios, justement. Enfin, qu'elles sont là, les nouvelles radios vraiment libres, non ?
Bien sûr, elles existent. Elles existent, et ça, c'est très, très bien. Moi, je trouve ça génial qu'on puisse justement recréer des espaces de parole. Sauf, comme je le disais, ça, ce sont des robinets qui se coupent très facilement. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe quand il y a des soucis dans des pays pas si loin de nous d'ailleurs, où la première chose qui est faite, c'est de couper.
Ouais, le contrôle du web.
Le contrôle du web, ça se coupe facilement.
Ouais,
hein.
C'est ça.
Donc voilà, c'est.
Alors que des ondes FM, peut-être moins. Hein,
c'est un peu plus compliqué.
Ouais, c'est ça. Il faut attraper l'émetteur, c'est toujours pareil. Et sinon, quel regard tu portes sur les radios associatives aujourd'hui ? À ton avis, c'est quand même encore des espèces de liberté ou pas ?
Il me semble. Alors, je ne suis pas la mieux placée pour en parler, mais il me semble que ce mouvement-là qui ne s'est pas arrêté, et ça, c'est vraiment génial. Au bout de 40 ans, on aurait pu imaginer que justement. Parce que ce mouvement des radios libres. Il a fait évoluer aussi les radios plus institutionnelles, les radios de Radio France ont évolué dans leur tonalité, dans leur programme. Tout a bougé, en fait, en 40 ans. On l'a bien vu. Et donc, les radios associatives auraient pu disparaître en disant, ben voilà, l'espace a été pris par d'autres. Non, elles sont restées. Et ce qui est aussi important, c'est que ce sont des radios de territoire. Elles sont ancrées dans le territoire. Elles parlent d'ici. Des gens d'ici, avec les gens d'ici. Et c'est leur force, aujourd'hui, je pense.
Ah ben nous, c'est notre conviction intime sur Radio Évasion, c'est sûr. Après, la question, ça sera celle du modèle économique. C'est vrai que si la FM disparaît, est-ce qu'on sera encore soutenu? Parce qu'on a besoin d'être soutenu pour exister, malgré tout. On ne peut pas faire que du bénévolat toute sa vie, c'est ça?
Non, ça, je confirme, on ne peut pas faire du bénévolat toute sa vie. C'est un petit peu compliqué, on a essayé, on a tenu. On a quand même tenu 18 mois en bénévolat, temps ultra plein. Hein, mais... Ouais. À Radio Brest-Atlantique, mais bon, c'est clair que ça n'a qu'un temps et que c'est impossible. Et puis, quand on veut faire des émissions de qualité, à un moment, il faut bien des pilotes dans l'avion. Hein. Ouais. Sinon, ça risque de s'écraser au vol.
Mais c'est pas parce qu'on se professionnalise qu'on devient coincé, qu'on ne garde
pas
sa liberté.
Non, je constate.
Bon, ben, on est d'accord, alors c'est parfait. On va se dire au revoir comme ça.
Merci beaucoup, Véronique,
à bientôt.
De cette gentille invitation.